Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h01, merci d'être là sur RMC en ce lundi soir, c'est l'after avec Walid Acherchour, Sébastien Piocel, merci à vous d'être là en direct à la radio sur RMC, direct vidéo également ce soir sur Twitch, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes que l'on a prises pendant cette Coupe du Monde, la chaîne RMC Sport avec les mieux manettes là-haut, je lis vos messages dans le chat, vous nous appelez au 3216, vous réagissez au débat de l'after, au programme dans cette heure-ci, Karim Benzema dans un instant, lui qui a pris sa retraite internationale et ce qui va manquer au bleu, le 3216, vous nous appelez, vous venez débattre avec Walid et Seb, on va revenir sur la séance de tir au but aussi. Est-ce qu'il y a des regrets à voir sur cette séance de tir au but? On l'a assez vite évacué. J'ai des stats assez dingues à vous donner qui tendent peut-être à dire que c'est pas la loterie dont tout le monde ou beaucoup de personnes parlent, cette séance de tir au but. Et puis avant minuit, les infos du jour et la grosse info, Ligue 1 notamment, puisqu'il va falloir rebasculer sur la Ligue 1, les gars, notre quotidien avec dans 9 jours déjà la 16e journée qui va reprendre. L'OL officiellement racheté par John Textor. Fin du feuilleton, ça y est, c'est fait. C'est enfin officiel. Donc n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. Les gars, c'est l'annonce du jour concernant Karim Benzema. Le jour de ses 35 ans, retraite internationale. Il a posté une photo de lui sur les réseaux sociaux Insta et Twitter avec le maillot de l'équipe de France. Et il écrit, je cite, « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. » Karim Benzema, donc, manière d'annoncer sa retraite internationale. 97 sélections, 37 buts en 15 ans au total, avec une absence de 5 ans et demi au milieu, évidemment, entre 2015 et 2021. Est-ce qu'il va manquer au bleu, Karim Benzema? N'hésitez pas, vous commentez l'émission sur le chat Twitch, vous nous appelez surtout au 32-16. Walid, Seb, est-ce que Benzema va manquer au bleu, Sébastien?
Malheureusement, non. Dire, je suis un fan de Karim Benzema. C'est le meilleur attaquant français de ces 10 dernières années, le plus complet, et notamment en club. Et quel club? Malheureusement, pourquoi? Parce que son histoire avec l'équipe de France, elle a toujours été très compliquée pour toutes les raisons que l'on sait, que l'on a évoquées. Ces 5 ans d'absence. Sous l'ère Deschamps, quand cette équipe a été finaliste de l'Euro à la maison et championne du monde en 2018, malgré son retour pour l'Euro où il a été peut-être le meilleur joueur français à l'Euro, manqué collectivement par cette équipe de France, malgré la victoire en Ligue des Nations qui sera finalement son seul titre avec les Bleus. Aujourd'hui, à 35 ans, jour de son anniversaire, il annonce cette décision-là. Pour moi, ça sera toujours un regret parce que, comme je disais, c'est vraiment l'attaquant par excellence. Il a toutes les qualités, il est altruiste, il sait tout faire en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas su, et l'utiliser. Et lui, de son côté, comme il le dit dans son tweet ou sur Instagram, il a aussi fait des erreurs. Certainement aussi en termes de communication, ça restera un rendez-vous manqué et une grosse frustration, je pense, pour tous les amoureux du football, ceux qui connaissent le football. Je dirais non, parce que il était pas là ces dernières années.
Benzema va-t-il manquer au bleu? 32-16, vous nous appelez, vous venez débattre à l'antenne avec Seb Biocel et Walid Acherchour. Est-ce qu'il va manquer au bleu, Karim?
Moi, je pense qu'il va énormément manquer en bleu, oui.
Pourquoi?
Pour plusieurs raisons. C'est que déjà pour moi, sur cette compétition, il a manqué au bleu. Et je trouve que la gestion du staff de l'équipe de France, notamment avant l'Australie, 72 heures avant l'Australie, on en a parlé sur les derniers jours, pour moi, n'a pas été bonne. Et je pense qu'au fur et à mesure de la compétition, que ce soit contre l'Angleterre, quand ça a compté, contre l'Angleterre, contre le Maroc et contre l'Argentine, la non-présence de Karim Benzema, je pense, moi, a manqué. De mon point de vue, je pense que sur la dernière Ligue des Nations, même si pour beaucoup c'est pas très très important, le duo Karim Benzema Kylian Mbappé a permis à cette équipe de France de l'emporter dans des matchs incroyables contre la Belgique et contre l'Espagne notamment.
Il a marqué sur les deux matchs. Ouais.
Et puis surtout, moi je pense que sur les deux prochaines années, avec le professionnalisme et la rigueur de Karim Benzema, s'il continue à être numéro 9 du Real Madrid, je pense qu'on n'aura pas meilleur à ce poste-là. et que globalement, si Olivier Giroud arrête sa carrière, si Olivier Giroud décline physiquement parce que l'âge commence à s'avancer, je suis pas sûr qu'au poste de numéro 9 on est l'équivalent. Donc bien évidemment qu'après on peut rejoindre ce que dit Seb sur le fait que ça a été une histoire gâchée, un énorme gâchis, que Karim Benzema a ses responsabilités, il l'a dit dans son poste, en faisant d'énormes erreurs, et je pense que ces erreurs là, les erreurs qu'il a fait, personne lui a véritablement en fait pardonné. En tout cas beaucoup ne lui ont pas pardonné, que ce soit dans l'opinion publique et surtout dans le groupe. Par rapport à ce qui s'est passé aussi en début de compétition, par rapport à ce qui s'est passé à l'Euro, par rapport à tout ce que ça a conduit et sur quelques comportements de chacun avec quelques clans. Donc pour moi, bien évidemment que si on doit reparler de la question principale, sportivement, Karim Benzema va manquer, parce que qu'on le veuille ou non, sur la dernière compétition, je trouve que dans le jeu, je trouve que dans la surface de réparation, un Karim Benzema aurait été un joueur très très utile à l'équipe de France.
32-16 pour réagir. L'aspect footballistique, je l'entends des deux côtés. Tu mets en avant le comportement, les clans éventuels. Bon, on rappelle qu'il est parti. On le sait tous hein, ici que. On a vu les messages énigmatiques, enfin l'absence de messages, oui. Le premier message de soutien au bleu après l'Angleterre, ça ne m'intéresse pas, comme il y a écrit il y a plusieurs jours. Bon, évidemment, il y a une histoire derrière, ouais, dont on n'a pas encore oui, tous les tenants et les aboutissants. On comprend peut-être certaines choses. On les aura, et sur RMC dans l'after, dès qu'on les aura, on les dévoilera. Donc pour l'instant, on peut pas juger.
Oui, il s'est passé quelque chose. Mais ça, c'est sûr que
voilà,
c'est un truc.
Est-ce que footballistiquement c'est une chose, mais finalement, est-ce qu'il est compatible avec l'équipe de France? Est-ce que est-ce dans la mentalité
c'est ça. Moi, il est là mon regret. Ouais. C'est-à-dire que si on le compare à un Lionel Messi ou un Cristiano Ronaldo, qui sont les joueurs phares, on va dire, de leur pays, c'est-à-dire que tu fais tout pour mettre ton joueur numéro un dans les meilleures conditions. Alors c'est vrai qu'il y a eu Griezmann, qui joue à un poste différent, ou l'émergence d'Mbappé. Le seul problème, c'est qu'ils ont gagné. C'est un problème pour Benzema, pas pour la France, mais ils ont gagné cette Coupe du Monde en 2018, où ces joueurs-là que je viens de dire par rapport à leur capacité offensive sont rentrés un petit peu dans le cœur des Français. Et le problème, il est là, à mon avis, il est pas sportif, parce qu'encore une fois, sportivement parlant, certes, ils vont toujours te dire mais Giroud, les statistiques, et bien sûr qu'il faut rien minimiser, loin de là, à ce niveau-là. Mais sportivement parlant, en termes de qualité, de capacité, ces 10 dernières années, il y avait pas meilleur attaquant pour moi que Karim Benzema.
Même sportivement, Seb, avec l'équipe de France, je rappelle quand même que sur les deux dernières échéances où Karim Benzema a participé et où Karim Benzema est revenu à la surprise générale en équipe de France, parce que pour moi le point de départ est là, c'est que Deschamps
juste avant l'Euro
a rappelé Karim Benzema parce qu'il était en immense difficulté à ce moment-là, et qu'il pensait qu'avec Karim Benzema ça allait être la solution pour aller gagner un euro, dans le fameux pragmatisme froid et cynique de la part de Didier Deschamps, le même Didier Deschamps qui deux ans après que Karim Benzema ait quand même fait un huitième de finale extraordinaire contre la Suisse, où je rappelle on est mené 1-0 et il fait d'énormes différences pour mener 2-1 puis 3-1 à 20 minutes de la fin. Après, Karim Benzema n'est pas défenseur et n'est pas milieu de terrain, mais il avait emmené cette équipe de France en quart de finale de Coupe du Monde. En tout cas, il a essayé de s'en rapprocher derrière la Ligue des Nations pour que Didier Deschamps ne montre très très peu de considération pour Karim Benzema. Pour moi, Didier Deschamps, en fait, a fait son choix sur ce début de compétition. C'est qu'il a voulu, et on en a parlé cette semaine, par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a par rapport à ce qui s'est passé, au-delà des choix du staff, du diagnostic, le gros problème, c'est que Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France n'ont pas montré que Karim Benzema était un joueur indispensable dans cette équipe. Et c'est là le gros problème. C'est qu'à partir du moment où il y a eu une hypocrisie et des non-dits par rapport à ça, c'est que à partir du moment où Karim Benzema, qui est Ballon d'Or, qui est un joueur qui a été ton meilleur buteur à l'Euro, qui a été ton meilleur joueur avec Kylian Mbappé sur la dernière Ligue des Nations et qui vient de gagner le Ballon d'Or avec le Real Madrid, si tu le gères comme un joueur normal parce qu'il a une petite blessure, en voulant à tout prix le faire jouer contre l'Australie, alors que cette équipe de France est capable de battre l'Australie et le Danemark sans Karim Benzema, c'est qu'à un moment donné, Didier Deschamps a fait son choix. Et l'homme providentiel est Kylian Mbappé, Kylian Mbappé l'a montré. Didier Deschamps était à deux doigts de réaliser un deuxième coup sans Karim Benzema, mais le problème il vient de là. En fait, le problème il vient que aujourd'hui Karim Benzema n'a pas ressenti cet amour et n'a pas ressenti cette importance dans le groupe. Et en fait, moi la question que je pose, c'est pourquoi Didier Deschamps finalement l'a repris en 2021, parce que si c'est pour finalement derrière avoir cette gestion là, et ben ça termine en gâchis. Et ben Karim Benzema bien évidemment a fait ses erreurs qui l'ont conduit à un passage en équipe de France où il n'était plus là. Mais à partir du moment où il est revenu, il fallait y aller jusqu'au bout avec Karim Benzema. Et c'est pas ce que Deschamps a fait.
Vous nous appelez au 32-16. Dans un instant, on va prendre Steve, qui n'est pas d'accord avec toi, Walid, sur Karim Benzema. Quelques messages sur le chat de la chaîne Twitch RMC Sport. Ça a réagi énormément. Sayamapa écrit: comment tu peux te passer d'un KB Nueve? Bien sûr que c'est un immense gâchis. Massine écrit: super joueur avec une mentalité de merde. Écrit Massine. Beaucoup de messages ce soir. 23h12. On fait une petite pause et je vous prends au 32-16. Steve en premier. Vous nous appelez. N'hésitez pas, vous nous appelez 3216 et vous êtes là à l'antenne en direct sur RMC avec Sébastien Piocel et Walid Acherchour. L'after continue, à tout de suite.
RMC After Foot, intégrale Coupe du Monde.
On est en direct jusqu'à minuit. Ah oui, avec Walid Acherchour, avec Sébastien Piocel, avec vous tous sur RMC Direct, vidéo également sur la chaîne Twitch RMC Sport. Je lis vos commentaires sur le chat, sur le hashtag RMC Live, également sur Twitter. Vous nous appelez le 3216, vous connaissez le numéro, vous réagissez au débat. Max vous attend au standard et vous venez en direct débattre sur RMC avec Walid et Seb. Dans quelques minutes, la séance de tir au but. Y a-t-il des regrets à avoir sur la séance perdue par l'équipe de France hier? J'ai des chiffres intéressants à vous donner, on parlera également de l'Olympique Lyonnais d'ici minuit. On va tout de suite clore notre débat sur Karim Benzema. Est-ce qu'il va manquer au bleu? Mais n'hésitez pas, en 32-16, dans un instant je vais prendre Steve. Et puis tiens, juste une info qui vient de tomber, jour férié en Argentine demain, le gouvernement l'annonce ce soir, les Argentins vont rentrer demain présenter la Coupe du Monde à Buenos Aires. Et bien le gouvernement a décidé de déclarer un jour férié pour tous, secteur public, privé, les étudiants. Demain, l'Argentine s'arrête pour fêter ses héros.
Le 20 décembre, alors. Le 20 décembre, ça sera férié.
Exactement. C'est énorme, hein, quand même. En même temps, il attendait depuis tellement longtemps. Allez, Karim Benzema va-t-il manquer au bleu? Seb et Walid ne sont pas d'accord. Steve nous a appelé au 32-16. Salut, Steve.
Salut, l'équipe. Salut, Seb. Salut,
salut
Walid.
Steve. Bienvenue dans l'after.
Je suis à moitié d'accord quand on dit ce qui va manquer. Max, il m'a posé une question simple, c'est: est-ce que tu vas le regretter? Pour regretter quelqu'un, il faut qu'il ait fait quelque chose de bien. D'accord? En équipe de France, ça a été, oui, un gâchis, mais non, je le regretterai pas. Ça veut pas dire que c'est pas un bon joueur, ça veut pas dire que c'est pas une bonne personne, mais pour l'équipe de France, bah, il y a jamais eu ce qui s'est passé, il y a jamais eu le déclic. Alors, c'est soi-disant la faute de Deschamps. Walid, il dit, ouais, Deschamps. Ok, moi, pour moi, les torts sont partagés.
La communication, j'ai pas dit que c'est de la faute de Deschamps, j'ai dit que Deschamps avait fait un choix.
D'accord.
On était un peu dit quand même, même tu disais dans la pub, oui, Kennedy, c'est Deschamps et tout.
Non, pas du tout. Je dis juste qu'à partir du moment où il le rappelle en 2021, je ne comprends pas comment il le gère aujourd'hui en 2022 pour uniquement le forcer à jouer l'Australie alors qu'il n'est pas apte.
Mais moi, ce que je reproche, si je peux reprocher une chose à Benzema, c'est de ne pas avoir montré son intérêt. De développer son intérêt au grand public, tu vois. Montre que tu es attiré par l'équipe de France. Exprime-toi, même si c'est pas dans ton caractère, on te demande pas de sourire.
À quelle période tu veux dire, Steve?
Tout le temps.
Bah, il a quand même dit que c'était une blessure ouverte, qu'il avait fait des erreurs. Il a souvent dit que cette période-là de sa vie avait été quand même très très compliquée à gérer, que ce manque de l'équipe de France, son retour en équipe de France, quand même, il en a beaucoup parlé de l'amour de l'équipe de France.
Mais dis-le avec des mots simples.
Sur le ballon d'or, la même chose.
Ouais, dis-le avec des mots simples. Je kiffe la France. J'ai envie de jouer pour mon pays.
Et tu penses que ça aurait tout changé, ça?
Bah, aux yeux du grand public, peut-être. On ne sait pas, on ne le saura jamais. Après, le problème avec Benzema, si tu critiques Benzema, t'es considéré comme raciste. Ça n'a rien à voir.
Non, mais souvent,
on dit ça, tu vois. Moi, je kiffe Benzema.
Ça remonte à l'histoire Deschamps, quand Benzema avait dit que Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il a un peu alimenté aussi, Benzema, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais peut-être que ça fait partie des erreurs qu'il dit regrette également.
Voilà, c'est-à-dire que, tu vois, t'as des Mbappé...
Après, il y a des gens aussi qui ne l'aiment pas pour ce qu'il est. Hein.
Tout à fait. Et pourquoi? Pour ce qu'il est, c'est par exemple, tu vois des pubs où j'ai l'impression on le voit jamais trop sourire, Benzema. Tandis que quand tu vois Mbappé, il a toujours le sourire aux lèvres. C'est des détails. Mais pour le grand public, ça fait sa différence, tu vois. Je sais que pour sur le plan de terrain, ça veut rien dire. Si le mec, il sourit jamais, on s'en fout, tu vois. Mais le grand public a besoin d'avoir un mec, tu vois, t'es footballeur. Montre ta joie un petit peu. Montre-la ta joie.
Il est quand même au Real depuis combien? 10 ans?
Ouais, 13.
13 ans. 13 ans. Donc dans des vestiaires de d'ego incroyable, on n'a jamais entendu une histoire de Benzema par rapport à ça. Donc sincèrement, moi je pense c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il a loupé ce wagon de, on va dire, 2016-2018 par rapport à l'Euro et la Coupe du Monde où il y a eu finale et ensuite titre mondial. Et c'est vrai que tout le monde s'est dit, pour moi très naïvement ou très très bêtement, que on avait gagné sans Benzema et à partir de là, bah, qu'on pouvait le refaire et que en gros il n'avait pas besoin de revenir. Quand il revient, comme tu l'as dit, oui, quand il revient en 2021, ça me fait penser un peu, tu sais, quand je sais plus comment on dit ça en anglais, mais tu sais, dans les périodes de transfert où tu prends un joueur au dernier moment, c'est parce que tu paniques.
Panic buy.
Voilà, tu paniques et tu paniques
à la surprise générale.
Et voilà, et tu le prends, et en plus de ça, je suis pas à l'intérieur du groupe, mais je pense aussi que certains cadres dont Lloris l'ont mal pris aussi parce qu'ils étaient pas au courant. Ça se joue à pas grand chose, hein, dans les groupes, dans les vestiaires. On parle d'ego. Et après, pour revenir au fait de sourire ou pas, sincèrement, chanter Marseillaise ou pas, ça veut, enfin, on disait rien, non. On disait rien de Platini, ça veut rien dire. Chacun a son caractère. Rien à voir, mais un Reynald Pedros qui était un joueur magnifique, bon,
ouais, pas vas-y,
mais je veux dire, c'était pas le premier à rigoler en public. Par contre, c'était un déconneur incroyable dans le vestiaire ou dans le groupe. Donc bon, ça.
Regarde, après, Walid, des fois il s'énerve un peu à l'antenne, mais en dehors, mon gars. Ça...
Mais là où je te rejoins, et c'est ce que j'ai dit, parce que moi j'ai dit qu'il, finalement, il manquerait pas par rapport à tout ça, mais que par contre que c'est un gâchis hors norme pour l'équipe de France et pour les joueurs.
Après, la réalité, c'est que son histoire en équipe de France, là où je vous rejoins, est un gâchis énorme, bien évidemment. Maintenant, c'est une question, la question est différente sur est-ce qu'il va nous manquer. Moi, je pense déjà sur cette compétition-là, et il y en a qui ne partagent pas du tout cet avis.
Et grand gagnant, c'est le Real.
Mais moi, pour moi, il a manqué. J'aurais bien aimé voir le duo Karim Benzema, Kylian Mbappé, comme je l'ai vu sur les deux dernières compétitions.
Steve, bon. Un dernier mot pour conclure.
Ouais, on aura tous des regrets. Une dernière chose, j'en ai marre qu'on toute la journée. Ouais, l'Argentine méritait. Le foot, c'est pas au mérite. Sinon, en 2006, on l'aurait gagné. Sinon, en 2000, on l'aurait perdu. C'est tout. Même si on marque à la 90e avec un but complètement contre son camp des Argentins, on gagne. Donc ouais, ils ont gagné, mais c'est pas
immérité.
Après, c'est pas. On
c'est pas immérité, mais le foot n'est pas au mérite.
Oui, le foot n'est pas au mérite, mais on peut quand même décrypter une rencontre en se disant, quand même, l'Argentine a été chercher sa victoire, quoi. On a le droit. Sinon, on parle plus de football à chaque match.
Non, mais c'est la rage qui parle, tu vois. C'est tout.
Steve, ouais. Bah, je te comprends totalement. J'ai totalement la même rage que toi, donc je vois totalement ce que tu veux dire.
Merci à tous. Une petite dédicace, si je peux passer, à mon pote José, qui est agent de foot, qui commence dans le milieu, qui galère, mais qui va percer. Et j'espère qu'il a quelques joueurs là qui vont percer.
Il y a que ça, des joueurs à Paris.
T'as cru que c'était la libre antenne pour claquer des dédicaces?
Non, mais c'est pour ça, parce qu'il a de la peine aussi, donc voilà. Ok, merci à tout pour RMC pendant la Coupe du Monde. Vous avez fait vivre une Coupe du Monde formidable, du matin jusqu'au soir, la libre antenne le soir jusqu'à 2h du matin. On a bouffé du foot, malheureusement ça s'est terminé comme une tragédie, mais on retiendra que des bons souvenirs.
Merci Steve, et surtout en fait, si on a kiffé à ce point-là, vous et nous, c'est parce que vous étiez là, donc ça a été énorme de faire ça avec vous tous. Merci Steve,
salut,
à bientôt, bye, salut Steve. 23h21, c'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Walid Acharchour, avec Sébastien Piocel, avec vous, vos nombreux commentaires sur la chaîne Twitch RMC Sport, sur le hashtag RMC Live, vos nombreux appels au 32-16. Karim Benzema va-t-il manquer au bleu? Romain nous a appelé. Salut Romain.
Ouais, bonsoir à tous.
Salut Romain.
Ça va Romain?
Ça va. Écoutez, j'avais appelé juste au moment où Benzema s'était blessé. Je crois qu'il y avait déjà Walid. Et on a vu un débat sur le fait qu'il fallait le laisser partir ou pas. Alors pour répondre à la question, je pense que la réponse est non à l'instant T. Mais par contre, c'est effectivement un gâchis extraordinaire. C'est un amour raté, c'est une histoire ratée, c'est des trains qui des trains qui se croisent. Maintenant, voilà, je crois que la faute a pas de chance, la faute a des histoires un peu malheureuses. Il a raté son histoire avec l'équipe de France, mais moi, je trouve que ce tournoi montre que, ben voilà, on a pu faire sans lui. Hein, si on va en finale, même si il a eu un jeu dégueulasse hier, jusqu'à la 80e en tout cas, on a fait sans lui, quoi. Et je pense que même si ça va peut-être en déranger certains, de ce que je comprends de la situation sportive, hein, j'insiste sur le sportif, ben moi, si j'aurais été d'échange, je l'aurais aussi fait rentrer à la maison. C'était ingérable.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que, alors, si vous me laissez développer en 30 secondes, le gars, il arrive blessé, et puis il se reblesse. Bon, je sais pas si on l'a forcé à jouer à l'Australie, etc. Je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'il est blessé, donc, tu sais que tu vas le récupérer. Si t'as du bol en huitième, probablement en quart. Je continue le raisonnement. Si tu arrives en quart, c'est-à-dire que t'as une équipe qui tourne. Et qui tourne sans lui. Donc, t'arrives en quart de finale, tu fais quoi maintenant? Tu fais, bah, écoute, Giroud, t'es gentil, tu sors. Bon, si l'équipe, elle tourne bien, t'as pas vraiment de raison. Surtout que lui, il a pas joué avec l'équipe depuis donc un mois. Il a pas joué avec le Real depuis encore un mois avant. Et encore, ça, c'est s'il revient en forme à ce moment-là, on n'est même pas sûr, quoi. Donc, du coup, tu le fous sur le banc, si t'es manager. Si tu le fous sur le banc, t'es manager, lui, il va faire la gueule.
Il y a beaucoup de signes.
Pourquoi il joue pas et machin et tout ça, les réseaux sociaux. Donc, d'un point de vue de l'atmosphère, parce que pas lui personnellement, mais parce que tout ce qu'il génère, pas tout, pour toute l'historique, il est clivant. Je pense que c'était ingérable pour le groupe et donc pour la santé mentale du groupe, il fallait.
Après, tu peux aussi te dire que il force pas 72 heures avant.
On sait pas.
Non mais tu m'as demandé de te laisser développer. Laisse-moi développer. Okay. Si tu, parce qu'on est dans les si apparemment, de ton côté, on va être dans les si aussi de mon côté. Si tu ne lui fais pas faire cette opposition où il est obligé de forcer 72 heures avant l'Australie, parce que l'unique importance c'est de le voir démarrer ce match contre l'Australie et que tu le gères sur un deuxième match contre le Danemark, voire un troisième match.
Et tu le sais, Walid, que c'est ce qui s'est passé qu'on l'a vraiment forcé ou?
Toi, tu disais qu'il allait revenir en quart de finale. On peut pas non plus savoir.
Je te donne un exemple. Mais Kevin De Bruyne à l'Euro 2020, il rentre en deuxième mi-temps du deuxième match contre le Danemark. Il fait la différence. Derrière, il aide la Belgique. Aujourd'hui, Karim Benzema comme Varane qui a joué le deuxième match contre le Danemark, qui n'était pas prêt pour l'Australie, qui derrière a joué contre la Tunisie où il n'était pas prêt contre la Tunisie parce qu'il se fait bouffer totalement par Wahbi Khazri, eh ben, au fur et à mesure de la compétition, il a pris des minutes, il a pris du temps de jeu et il s'est réglé. Quand tu vois qu'Olivier Giroud ne peut pas tenir 7 matchs, il ne peut pas physiquement. À un moment donné, tu sais très bien que tu vas aller loin dans la compétition.
Varane et Benzema, je trouve Walid.
Non, les gars, et puis Walid,
pourquoi on peut pas comparer Varane et Benzema?
Parce que Benzema, il est beaucoup plus influent, il a beaucoup plus d'influence en termes du poste qu'il a sur la façon dont tu joues. Tu vois, si tu mets Benzema, tu peux plus mettre Griezmann, les tournes, elles tournent pas. Et je dis pas Griezmann, c'est mieux. J'ai juste, l'équipe, elle tourne pas pareil,
bah donc tu voilà, donc il y a eu aussi un choix. Il y a eu aussi un choix qui a été fait par rapport à ça aussi. Pour ne pas.
Oui, pour commencer, mais à partir du moment où ça tourne.
Oui.
Bah, si t'es manager, si t'es entraîneur, je sais que t'aimes beaucoup Benzema et c'est pas une critique. Mais sois froid. Si tu es froid et tu dis, putain, le truc, il tourne, je veux pas prendre de risques. Ce qui compte, c'est la cohésion du groupe, l'équipe, elle tourne. Si tu réfléchis comme ça, je te jure, peut-être que tu prends cette
décision. Elle tournait pas à 72 heures avant l'Australie, l'équipe.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que Benzema, en fait, était un joueur.
Je sais pas si on l'a forcé, on sait pas.
Non, je te parle pas. Non, mais forcé ou pas forcé, il fait une opposition 72 heures avant, alors qu'il a une gêne. Il force
Attends,
Romain,
attends. Il faut pas qu'il vienne.
Laisse finir Walid.
Il force derrière, sur.
Il a pas joué depuis un mois.
D'accord. Il fallait pas qu'il vienne alors. Pourquoi Deschamps le prend alors s'il est pas prêt?
Bah genre, c'est parce qu'il y croit et puis à un moment
il y croit.
En même temps les gars.
Il lui donne la bonne volonté parce qu'il a envie de l'avoir parce que c'est un super joueur, et il a bien raison.
Bah s'il a envie de l'avoir,
si vraiment il dit Romain, merde, c'est fini quoi.
Laisse répondre Walid, je te redonne la parole après.
Ouais, Romain, s'il a envie de l'avoir, s'il y croit, il doit y croire post-Australie. Il doit pas demander à son joueur de faire une opposition 72 heures avant un match contre l'Australie où tu sais très bien que sans Karim Benzema, tu peux gagner la rencontre. C'est ce que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure. Ne me parle pas pas de la suite. La suite, bien évidemment que l'histoire, elle est, comment dire, elle démarre sans lui. Mais je te parle, quand tu as un ballon d'or comme Karim Benzema, qui vient de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, qui vient de gagner la Ligue des Nations avec toi, avec un duo avec Kylian Mbappé, tu lui montres aucune importance si tu lui demandes de faire cette opposition 72 heures avant, alors qu'il n'est pas prêt, qu'il n'est pas à 100%.
En fait, je pense qu'on va tomber d'accord, on va pas tomber d'accord. Ce que tu dis, c'est que tu supposes, et tu as peut-être raison, je n'en sais rien. Et moi, je pars de la supposition différente.
Et ça, on peut pas l'affirmer à 100%.
Cette opposition 72 heures en Australie, moi, j'ai cru comprendre qu'il a dit j'étais prêt pour faire l'opposition. Si effectivement l'a forcé, c'est une connerie, je suis totalement d'accord avec toi.
Mais ça, on peut pas le dire pour l'instant.
Je ne le sais pas.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Romain ?
Je dirais juste que ce matin, hier, je me suis couché à 3h du mat, j'arrivais pas à dormir, je vous ai écouté. J'avais l'image de Kolo Muani qui a bien, bien, bien du mérite, hein, aucun reproche. Il a fait un match de bonhomme. Hein. J'avais cette image en tête, même si j'ai entendu dire « Oui, mais bon, c'est pas 2006 ». Et puis les Argentins l'ont mérité, ce qui est le cas. Putain, ça fait quand même mal. Quoi. Moi, j'ai vécu France-Bulgarie, j'ai vécu 2006, j'ai vu les bons moments, les mauvais moments, mais bah, c'est comme un chagrin d'amour. Quoi. Et ça me rend triste. Et en même temps, je pense deux choses, et puis après, je vous laisserai là-dessus, je vous promets. C'est que on a une chance de malade mental de vivre des moments comme ça, tu vois, parce qu'hier on était quelque part entre guillemets nous spectateurs un peu plus acteurs. Moi je travaille avec des mecs partout dans le monde entier, des Américains qui m'ont dit yeah, super match hier, mais bon, eux ils l'ont vu sans émotion et nous même si c'était horrible, je dis ça me fait mal au cœur, ben c'était un truc de fou furieux quoi. Et la dernière idée c'est que il n'y a que le foot pour nous faire vivre ça. Et le foot, c'est le plus beau sport du monde. Et les mecs qui disent que les gars comme moi et vous qui regardez le foot, on est des blaireaux, bah c'est eux les blaireaux. Ils n'ont rien compris.
Je t'ai reconnu, Nicolas Villas. Extraordinaire. Seb, tu vois, j'ai un dernier truc.
Ouais, non, c'était par rapport au débat qu'on avait au début. Toi, tu serais pour que Deschamps reste ou...
Oh là là, il a remis une pièce.
Non, moi, je, personnellement, c'est moi que tu demandes, Sébastien.
Oui.
Je pense que c'est un super meneur d'hommes. Je sais pas si on trouvera mieux, mais je pense que c'est bien de changer là. Faut passer un peu à autre chose quand même.
D'accord.
Merci Romain.
Merci à vous. Et je peux dire bonjour à mon équipe de foot. Je joue tous les dimanches en Vas-y. Amateur, très très mal, mais mes potes ils jouent bien. Donc je dis bonjour à tous les gars de Suchet.
De quoi ?
Boulevard Suchet, c'est là où on joue.
D'accord. C'est où ? C'est à Paris ?
C'est à Paris.
D'accord. C'est où ça ? Je connais pas bien ça. À
17e.
16e ou 17e? Ah, ok, il me dit n'importe quoi. J'ai Najib dans l'oreillette, il me dit 17e. Merci, Najib. C'est entre les deux, il me dit ah, d'accord, ça commence peut-être dans le 17e et ça finit dans le 16e. Bon, bref.
Il connaît mieux Marseille, Najib. Ouais,
c'est sûr. Merci, Romain.
Merci à vous, les gars.
À bientôt. Passez une bonne soirée. Bye bye. Il est 23h29, c'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Walid Acherchour, avec Seb Piossal, avec vous au 32-16. N'hésitez pas dans un instant. Désolé, Romain qui est avec nous, on va se refaire un peu de mal cette séance de tir au but hier. On va la décrypter un peu. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets à voir finalement ? J'ai des chiffres à vous donner, un sonore à vous faire écouter également sur un entraîneur de gardien. On sait que Didier Deschamps n'est pas fan de bosser spécialement les tirs au but. On parle de tout ça dans un instant avec vous au 32-16. N'hésitez pas, c'est l'after sur RMC en direct jusqu'à minuit.
RMC After Foot, Intégrale Coupe du Monde.
Thibaut Giangrande.
23h31, quel plaisir d'être avec vous ce lundi soir 19 décembre avec Walid Acherchour, avec Sébastien Piocel, lendemain de finale de Coupe du Monde. On est là jusqu'à minuit. Vous le savez, hein, l'after c'est là toute l'année, hein, on sera là le 24, le 25, le 31. L'after ne s'arrête jamais. Merci d'être fidèle au rendez-vous à la radio sur RMC en direct vidéo également. On y est de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre également sur la chaîne Twitch RMC Sport. Donc merci à vous. N'hésitez pas à commenter l'émission dans le chat. Vous nous appelez également au 32-16 pour réagir à tous ces débats. On vient de parler Benzema, ça sera dispo dans quelques minutes en podcast. On parlera de l'Olympique Lyonnais également dans un quart d'heure, ça y est. Textor est enfin le nouveau patron de l'Olympique Lyonnais. 32-16 d'ailleurs, les Lyonnais, si vous avez envie de réagir, je vous donne toutes les infos dans un petit quart d'heure. Mais d'abord, l'équipe de France et cette séance de tir au but, les gars, cette défaite hier en finale. Y a-t-il des regrets à avoir ? Je vais m'expliquer. Comme à l'Euro 2021 contre la Suisse, comme à la Coupe du Monde 2006, l'équipe de France a donc perdu au tir au but un match dans une grande compétition. C'est la troisième fois de suite. La dernière victoire, c'était le quart de finale contre l'Italie en 98. On entend souvent que les tirs au but, c'est la loterie. Lloris lui-même l'avait dit après la défaite contre la Suisse à l'Euro 2021. Didier Deschamps lui aussi a reconnu qu'il ne les travaille pas spécifiquement. Moi, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des regrets? J'ai deux choses pour poser cette question. J'ai des stats que je vais vous donner dans un instant. Et puis, un petit sonore que je voudrais vous faire écouter de l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lolichon. Il explique, dans ce que vous allez entendre, comment il a préparé la finale de la Ligue des Champions 2012 contre le Bayern Munich, qui s'est terminé au tir au but, remporté par Chelsea. Il a été interrogé par nos confrères Walid du Winamax FC. Christophe
Lolichon. Là, je décore ma maison de paperboard, sans blague. Hein. Les tapisseries, on ne la voyait plus. J'ai 15 points d'analyse sur chaque penalty de chaque joueur. Donc 31 minutes, il y a quelques ralentis quand même. Et je cherche. Au départ, j'avais 13 points, j'en rajoute 2. À savoir que je commence à étudier le penalty à partir du moment où le gars pose le ballon sur le point. Le penalty. Et là, je dissèque. J'arrête les images. Tac. Tiens, il a changé ça. J'avais déjà commencé à le faire depuis un certain temps. Et pourquoi je fais ça, là? Parce qu'en 2008, quand on perd à Moscou contre Manchester United, j'ai oublié de dire un truc à un joueur. Et j'ai dit plus jamais ça.
Le perfectionnisme de l'entraîneur des gardiens de Chelsea,
c'est les détails. Très bonne interview réalisée par Sofiane Zouaoui.
Qu'on embrasse. Ouais.
Les détails, hein, on dit souvent que ça fait la différence, surtout au très haut niveau. Et forcément que, surtout en Coupe du Monde, où tu peux te retrouver à jouer le titre mondial ou à une qualification au tir au but.
Après, pour le coup, c'est un contexte différent parce que là, c'est une finale de Ligue des Champions et ils connaissent quand même l'adversaire.
Ouais, non, mais pour dire que le
minimum.
Pour dire, parce qu'on va y venir après, c'est. Par rapport notamment à ce qu'avait pu dire Hugo Lloris ou Didier Deschamps, donc ils y prêtaient pas plus attention que ça. Pour moi, déjà, le pénalty, ça reste un geste technique. On a l'impression que c'est hyper facile à réaliser. C'est vrai que le tireur a un avantage quand même sur le gardien de but. Après, il y a et le tireur et le gardien. Je me mets donc déjà à la place du tireur. Donc, moi, je pense que quand tu joues un match à élimination directe, c'est plutôt logique de t'entraîner. Enfin, en tout cas, même si c'est des joueurs de très haut niveau, rien ne t'empêche de faire une ou deux séances la veille de match. Tu sais très bien que ça peut t'arriver. Bien sûr que les joueurs qui démarrent la rencontre sont rarement, on le voit encore plus avec tous les changements qu'il y a maintenant, ceux qui peuvent éventuellement tirer après les prolongations. Il y a le côté technique et aussi le côté forcément émotionnel qui prend, à mon avis, c'est même du 50-50 quand tu joues une finale de Coupe du Monde. Et après, il y a aussi donc le poste de gardien de but. Il y a des gardiens qui ont plus de facultés dans cet exercice-là, qui prennent plus de place, qui sont plus imposants, impressionnants, qui bougent plus. C'est pas du tout le
genre,
cas de Hugo Lloris.
Jean Martinez.
Et puis en plus de ça, si on reprend donc le match d'hier, l'arrêt qu'il fait sur Kolo Muani, ou quelque part, il permet à son équipe d'être en vie et d'aller au tir au but. Je pense. En plus d'être très performant dans cet exercice-là, ça le porte déjà vers la séance de tir au but, ça lui donne une confiance énorme. Mmh. Et derrière, pas forcément très bien tiré non plus les pénalties des Français. Bon, t'as Tchouaméni qui est à côté. Mais c'est vrai que quand tu compares, Lloris et Martinez, Lloris, bon, on sait que c'est pas, il a fait une très très belle Coupe du Monde, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais tu vois que c'est pas un exercice dans lequel il excelle.
Walid, tu voulais réagir. Je vous donne justement la stat là que m'a envoyé Gilbert d'ailleurs par message sur le taux d'arrêt de gardiens sur les tirs au but. Juste précise pour être complet sur Lolichon. Donc il explique, je vous ai pas mis l'interview en intégralité, que donc lui il a mis ça dans les murs de sa maison, les stats sur chaque tireur, etc. Et qu'il a envoyé à tous ses gardiens, Petr Cech et les trois suivants dans la hiérarchie, un montage vidéo avec chacun des tireurs à analyser et à partager. Walid, tu voulais réagir.
Évidemment qu'on va pas refaire le débat sur loterie ou non. On a bien compris. Je pense que beaucoup ont compris que, bien évidemment, que le facteur ultra aléatoire que nous décrivent Hugo Lloris et certains joueurs de très très haut niveau ne sont pas la vérité. On l'a bien vu sur cette compétition encore une fois. On a bien évidemment vu que aujourd'hui Martinez ne sait pas, il n'est pas né spécialiste des tirs au but à un moment donné. Bien évidemment qu'il y a un flair, bien évidemment qu'il y a un ressenti et un feeling à avoir sur ce type de rendez-vous, surtout après une émotion pareille et une finale aussi importante. Mais Martinez était numéro 2 d'Arsenal et puis derrière Aston Villa, et il s'est révélé au fur et à mesure comme un gardien qui avait de la pointe, du cran et de la personnalité, et qui l'a montré sur ces exercices-là. Et moi, ce qui me dérange, et j'ai pas envie d'en vouloir à Hugo Lloris, parce que Hugo Lloris a fait une Coupe du Monde extraordinaire, que sans Hugo Lloris, je pense que tu n'es pas sur cette séance de tir au but contre l'Angleterre, sur la frappe d'El Yamik contre le Maroc, et même contre l'Argentine, où il te sauve du bord de l'élimination à plusieurs reprises. Maintenant, Hugo Lloris, ça fait quand même sa cinquième, sixième compétition internationale avec l'équipe de France, voire plus même, hein, si on compte les Euros. En fait, à un moment donné, tu sais très bien que pour continuer à gagner des titres, tu vas en avoir des séances de tir au but. Et que là, c'est la deuxième d'affilée, et que c'est la deuxième d'affilée où il est pas impactant. Contre la Suisse, et là, encore une fois, contre l'Argentine. Et ça, c'est dommage. Et surtout quand t'as le leader, le capitaine, au-delà d'être un gardien et d'être à côté de tes pompes, parce que c'est la réalité, hein. Il y a une vidéo, un montage vidéo qui tourne sur les deux séances de tir au but, notamment, contre la Suisse et contre l'Argentine, qui est assez gênant de la part de Hugo Lloris, où il est à chaque fois complètement pris. Mais quel signal t'envoies en fait au reste de l'équipe quand ton capitaine et gardien te dit ouais, mais de toute façon, en fait, la séance de tir au but, c'est la loterie, hein. Moi, c'est un discours qui me dérange quand on sait comment aujourd'hui les staffs fonctionnent, comment on doit être dans le détail, dans le micro-détail de la performance. On n'est plus dans le foot des années 80, quoi. Là.
Donc on sait qu'a priori, en tout cas, Didier Deschamps, sauf s'il a changé depuis ses déclarations qu'il a dit il y a quelques années, de philosophie sur le tir au but, ça n'a pas été bossé à ce point-là. En tout cas, les chiffres que je vais vous donner, c'est les pourcentages d'arrêt des gardiens de but sur des pénalties dans leur carrière. Donc les stats viennent du site de référence Transfermarkt, qui est une référence sur les stats. Lloris, c'est 15% de pénalties arrêtées dans sa carrière. Alors à titre de comparaison, par exemple Mandanda, c'est 8,5%, mais Maignan, c'est 28,6%. Martinez, pareil, 28% d'arrêt dans sa carrière. Alisson, 40%. Bounou, le Marocain, 26%. Levakovic, 25%. Et en fait, on se rend compte, quand on regarde les séances de tir au but, les pénalties dans cette Coupe du Monde, à part le contre-exemple Brésil-Croatie, où Alisson a un meilleur taux que Livakovic, mais Livakovic a un taux quand même assez élevé, les séances ont été remportées par l'équipe dont le gardien avait un plus fort taux d'arrêt sur les pénalties dans sa carrière. Donc c'était le cas de Martinez face aux Pays-Bas. Et hier,
il y a eu une certaine logique.
Oui, finalement, c'est ça. C'est que parce que, en fait, quelque part, moi aussi, je peux entendre... ça peut s'entendre, quoi. Il y a la loterie. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. On peut pas juste dire c'est un bon gardien ou quoi que ce soit.
Ah, il y a aussi les tireurs à un moment donné.
Il y a les tireurs en face.
Sur le cas du Brésil, par exemple, quand Rodrigo, Marquinhos et Pedro tirent, oui, à un moment donné, c'est
comme aussi... Tchouaméni, par exemple, qui tire à côté.
Oui, c'est pour ça qu'il y a le geste quand même technique du tireur. Et en plus, ce qui est fou, c'est sur le film du match, tu peux te dire, l'équipe de France, ils étaient menés 2-0, ils reviennent à 2-2, dont un penalty. L'Argentine repasse devant 3-2, ils reviennent 3-3, encore un penalty. Donc quelque part, même si c'est le même tireur, deux penalties où il arrête pas en match. Et en plus de ça, ils se sont vus gagner la Coupe du Monde. On voit Di Maria, tous ses coéquipiers. Donc tu peux te dire qu'à ce moment-là, au moment de la séance des tirs au but, entre guillemets, peut-être avantage même aux Français. Mentalement, ils sont revenus, il peut rien leur arriver. Et c'est là où il a été un peu, c'est là où je disais le dernier arrêt à la dernière minute face à Colomouani. Et l'impact qu'il a, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le gardien qui fait la différence.
Alors après, il y a aussi le contre-exemple, tu vois, dans ce débat, je trouve qu'il est quand même très complexe. C'est l'exemple de l'Espagne, donc éliminé en huitième de finale au tir au but par le Maroc, en sachant que Luis Enrique a demandé à ses joueurs d'arriver à la Coupe du Monde en ayant tiré chacun au moins 1000 pénalties pour s'entraîner.
Non, mais faire 1000 passes aussi déjà.
Après, il n'y a pas de vérité absolue. L'Espagne a perdu sur les trois dernières compétitions en séance de tir au but contre l'Italie, contre la Russie et contre le Maroc. Mais bien évidemment que c'est un exercice à prendre au sérieux. Et globalement, c'est même cette communication qui est un peu gênante. Au-delà de ce que Lloris, on sait, on a compris que ce n'était pas sa tasse de thé. Maintenant, la question, c'est est-ce que si Mike Maignan était sur le banc, il aurait fait rentrer Mike Maignan?
Alors, il aurait pas vu parce qu'il avait fait tous ces changements là. Pour le coup. Mais est-ce qu'il aurait gardé un changement C'est pas très déchant, ça.
Donc voilà, à un moment donné, il faut aussi impulser quelque chose, tenter quelque chose. Pour mettre du doute dans les tireurs de argentins, parce que hier il y avait quand même pas mal de tireurs argentins qui ont tiré des pénalties dans leur vie. Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martinez, tu prends même un Paredes, on a déjà pris.
D'ailleurs, Dybala est rentré pour ça.
Ouais, c'est un très bon tireur de coup franc. De l'autre côté, Kingsley Coman en tire, j'ai jamais vu tirer un pénalty. Hormis Mbappé, tu vois, il y a Tchouaméni, la même chose. Et derrière, c'était Colomboigny et Marcus Thuram. Donc, même sur ça, sur la nature des tireurs, tu as sorti Griezmann très tôt. T'as pas énormément de choix offensifs à faire entrer sur la fin de match avec une qualité technique et une fraîcheur pour essayer d'avoir une gâchette en plus. Donc, même par rapport à ça. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas été maîtrisées de la part du staff. Hein.
Donc, pour conclure, quelques regrets ou pas finalement sur cette séance de tir au but ?
Quelques regrets, oui, parce qu'à partir du moment où tu lances une séance de tir au but, c'est un exercice technique et psychologique et mental que tu dois réussir et ils sont complètement passés à côté.
Ça, t'es d'accord.
Ouais, c'est bon, tu peux avoir des regrets.
Le débat fait rage également sur le chat de la chaîne Twitch RMC Sport. Citizen écrit notamment Mike Maignan, j'espère qu'il va prendre les rênes de l'équipe de France. Ramina écrit Lloris fait les arrêts qu'il faut. Voilà, il y a Marvel qui parle des arrêts. Une frappe cadrée, arrêtée, c'est pas une frappe ratée. Voilà, beaucoup de messages sur le chat de la chaîne Twitch RMC Sport. On est en direct vidéo hein, jusqu'à minuit avec Seb Piocel, avec Walid Acherchour en direct sur RMC. C'est l'after qui continue. Dans un instant, on va commencer, les gars, à revenir sur notre pain quotidien, notre feuilleton, mon feuilleton préféré.
Moi, j'ai hâte, franchement.
La Ligue 1. Mais, ouais, me manquait.
Allez, pour oublier ça, monde, là,
c'est ça, faut qu'on bascule. On va commencer à le faire parce qu'il y a eu 9 jours de la reprise de la Ligue 1. Une grosse nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Ça y est, l'OL est américain. John Textor est le nouvel actionnaire majoritaire. C'est enfin fait. Dans un instant, je vous donne toutes les infos supporters lyonnais. On vous attend au 32-16. Est-ce que vous êtes rassurés, par exemple? Venez nous le dire au 32-16. C'est l'after en direct jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Thibaut Giangrande.
23h47, l'after avec Walid Acherchour et Sébastien Piocel. Encore un petit quart d'heure à passer ensemble. Bah ouais, les gars. C'est minuit ce soir. Hein. Coupe du Monde est terminée. Mais on est là tous les soirs en direct.
Tôt.
Jusqu'à
pas de prolongation.
Eh non, pas de prolongation, plus de tir au but. Me parlez plus de tir au but. Merci en tout cas d'être toujours aussi nombreux à être là, à nous suivre en direct à la radio sur RMC, sur les applis, en vidéo sur la chaîne Twitch RMC Sport. Vous qui commentez, vous qui nous appelez au 32-16. Lyonnais ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas parce qu'on va parler de votre club. La Ligue 1 qui reprend dans 9 jours. La 16e journée déjà, c'est fou, ça va venir super vite. Et aujourd'hui, un événement pour l'OL, mais un événement pour le foot français, puisque ça y est, la réalisation des opérations avec Eagle Football a maintenant eu lieu. C'est la phrase qu'on commençait à douter de ne jamais lire, de ne jamais entendre. Eh bien, le communiqué de l'OL est tombé ce soir. John Textor est le nouveau boss de Lyon, le nouvel actionnaire majoritaire du club. Oubliez Jack Cashcar. Il a tous pensé, Seb, depuis quelques semaines. Il aura donc fallu 4 mois et 7 reports pour que l'opération se fasse. Textor prend 77,49% du capital d'OL Group. Textor a confirmé dans la foulée que Aulas allait rester président 3 ans. Supporter lyonnais, le 32-16. Venez nous dire si, enfin, c'est une bonne nouvelle ou finalement vous auriez préféré que ça ne se fasse pas. C'est vrai que déjà, Walid, Seb, on n'y croyait plus trop. Seb, t'en parlais juste avant, ça sentait pas bon, quoi.
Moi, franchement, j'y croyais plus. Quand ça prend autant de temps comme ça, je m'imaginais que voilà, ça allait tomber à l'eau. Après, je pense globalement, ça doit être un soulagement pour les supporters lyonnais. Alors, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, parce que forcément, quand tu rentres dans une nouvelle ère, même si le président Aulas va encore rester en place. Bon, voilà, les investisseurs étrangers, on sait jamais où on va. Hein. Il peut y avoir des surprises. Par contre, là, pour on va dire pour le présent ou le futur proche, Lyon avait aussi besoin de ces garanties-là financières. D'ailleurs, il avait participé à l'arrivée. En tout cas, il avait validé l'arrivée de Laurent Blanc, certainement aussi avec quelques transferts là pendant la période du mercato hivernal. Après, avoir le mode de fonctionnement, la seule chose moi qui je trouve vraiment positif, c'est
Ola reste parce qu'il connaît, bien le club, je veux dire, mais et qui va faire la transition. Après, je sais pas si c'est solide ou pas solide. En tout cas, il a des ambitions, il avait annoncé.
32-16, n'hésitez pas si vous voulez réagir. On parle de Lyon, je vous rappelle que les podcasts After Lyon sont toujours dispo, hein, comme tous les autres podcasts club, PSG, OM, tout ça va reprendre très vite. Joga également, voilà.
N'hésitez pas. On en faire un sur Nantes aussi, non ?
Il y en a un podcast After Nantes ?
Ouais.
Ah oui, quand c'est même. On va en parler à Gilbert, mais.
Ouais, et je suis sûr qu'il est ouvert.
Ouais, mais du coup, je te laisse aller voir pour lui en parler. Walid. Bonne nouvelle, là, que ce soit fait pour l'Olympique Lyonnais, ou finalement, au bout d'un moment, vu que ça traînait, il aurait, tu vois, est-ce que le degré de confiance sur cet homme est
tout. Ah oui, ça reste une bonne nouvelle si, encore une fois, ça se concrétise véritablement avec une vraie solidité financière et que derrière, bien évidemment, cette officialisation, il n'y a pas de couac. Maintenant, bien évidemment que en termes d'image, c'était important que ça se finalise parce que c'est vrai que sur les dernières semaines, les derniers jours, il y avait de quoi être inquiet. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. On va regarder un petit peu cette nouvelle ère qui se profile du côté de l'Olympique Lyonnais, une ère inédite parce que c'est quelque chose qu'on a très très peu vu. Est-ce que ce club-là est prêt à accueillir un investisseur étranger aussi lourd, aussi avec de l'ambition, comme tu disais, Seb, parce qu'on connaît le fonctionnement de l'Olympique Lyonnais, ce qui a permis à l'Olympique Lyonnais d'être tout là-haut, mais aussi à ce club d'être aujourd'hui à une place ridicule par rapport à son ambition et par rapport à son standing. Donc voilà, pour l'instant, moi, j'ai pas d'autre chose à dire. On a encore branché sur cette Coupe du Monde et on a, pour être honnête, je n'ai pas tout suivi sur les derniers jours parce que l'Olympique Lyonnais n'était pas.
Bah voilà, concentré sur la Coupe du Monde. Regarde,
ils pourront s'appuyer sur un champion du monde en tout cas.
Mais oui, Tagliafico.
C'est clair.
Mais
champion du monde à Lyon,
voilà, on va voir ça sur les prochains jours et les prochaines semaines.
Tu as joué pas mal de messages, toi, je te donne la parole dans un instant, mais sur le chat, Abdallah qui écrit, mais on s'en fiche de Noël, pourquoi Kolo Muani fait pas la passe à Mbappé à la 123e? Smiley, ouais, voilà.
C'est un peu ce qui se passe dans nos têtes.
Mozungu, mais passer de la Coupe du Monde à la Ligue 1, ça pique, mais ouais, mais les gars, c'est l'after, on est là, nous, tous les soirs de l'année, 365 jours par an, et dans une semaine, on sera de retour.
On n'a pas ramené la petite bassine d'eau pour se mouiller la nuque.
Non, mais il va falloir, effectivement, comme le dit Seb, on regardera les champions du monde, commencer par Tagliafico, quoi.
Non, je suis pas sûr qu'ils reviennent très rapidement.
Pas tout de suite, on verra la semaine prochaine. Brest-Lyon.
Ouais.
Voilà. Ouais. Il sera peut-être pas dans le Finistère, effectivement, ouais, la semaine prochaine, le mercredi.
Et la même chose pour Messi contre Strasbourg, je pense.
Ouais,
non, ce que je veux dire, c'est que financièrement parlant, je suis pas trop inquiet. Hein. Toutes les garanties, ça a l'air quand même d'être solide. C'est surtout dans les choix après qui vont être faits. Lyon, c'était un peu l'un des derniers clubs géré à l'ancienne, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais avec un président qui est là depuis longtemps, groupe français, un degré moindre Montpellier avec la famille Nicolin, mais c'est vrai que depuis dans tous les autres clubs, il y a eu énormément de changements. Alors ça peut être des groupes français aussi, et c'est vrai que là, bon, il y a cet inconnu là. Après, ils peuvent quand même s'appuyer sur un centre de formation qui fonctionne très très bien. Je pense pas qu'ils vont tout changer. L'importance, le choix des hommes, à mon avis, sera important aussi pour la suite. Mais il faut quand même que cet ADN Olympique Lyonnais reste en haut lieu. Après, voilà, avec en utilisant bien l'argent qui va être investi.
Oui, en parlant de ça, la question lui a été posée là en conf de presse à Textor. Donc il dit oui, nous allons investir lors du mercato, mais je pense qu'il faut le faire de manière méthodique et intelligente. Avec l'opération qui se concrétise, le club sera mieux placé pour saisir les opportunités qui se présentent. Je voudrais votre avis juste pour terminer sur cette déclaration. Ça sent pas le gars qui va sortir le chéquier, on est d'accord là-dessus.
Non, mais c'est pas plus mal finalement, ouais, non, parce que ça, tu sais, quand justement, si t'es blindé, là forcément ils sont sollicités par tous les agents, ils vont vouloir placer les joueurs. Non, c'est en gros, c'est que on sera capable de faire un joueur vraiment si la cellule de recrutement ou le coach le veut, parce qu'on aura les moyens, mais on va pas claquer l'argent comme ça à tout va dans les prochaines semaines. Non, à la rigueur c'est plutôt sain d'avoir ce discours là.
Walid, tu veux rajouter quelque chose ou on s'arrête là sur la Ligue 1? Tu vois, moi, je trouvais ça pas mal, tu vois, en plus, l'actu était là, avec l'Olympique Lyonnais, oui. De se faire, tu vois, 6-7 minutes oui. Tranquillement, et puis, tu sais, on va monter
voilà, en puissance voilà, petit à petit.
Pas demain, on se fait 8-9 minutes voilà, sur la Ligue 1.
Exactement.
Après-demain, on se fait un quart d'heure, puis petit à petit, on fait comme ça.
C'est un peu comme moi avec le footing, c'est-à-dire que, voilà, j'ai commencé à 2-3 minutes.
On va peut-être quand même reprendre la Ligue 1 un peu plus vite que toi, le footing.
Ouais, je pense,
Non, on va faire comme toi,
la Ligue 1 est sûre de reprendre.
Exactement.
Ça, c'est sûr.
Niveau 1, niveau 2. Niveau 3. Niveau
exactement. 4. Et puis à la fin, on va aller gagner des tournois.
Exactement.
Les 250.
Exactement.
Voilà, c'est la fin ce soir en tout cas. Walid, Seb, merci beaucoup. Merci je remercie Max au standard. Merci à Najib, Thomas et Polo à la Real. Merci à vous de nous avoir suivis à la radio sur RMC, sur Twitch. Ça a encore été beaucoup commenté ce soir. Voilà, on vous a remis aussi petit à petit dans le bain de la Ligue 1. Les gars, on sera là tous les soirs hein, jusqu'à minuit l'after. Merci de vos appels au 32-16. Et puis, merci encore une fois pour cette Coupe du Monde qu'on a vécu tous ensemble, ça a été magnifique. Ce soir, voilà, pour la première fois depuis un mois, on s'arrête à minuit. Presque triste, quoi.
Ouais.
Venez les gars, on garde l'antenne jusqu'à 1h du mat, là. Non, on va aller se coucher un petit peu.
Thibaut, il est pas bien.
Ouais, non. Mais
t'as passé une sale émission.
Non, c'était top, j'étais très content.
Oui, mais je t'ai senti un peu.
Il était pas d'accord avec nous, souvent.
Ouais.
Ah, c'est l'after. En fait, quelque part, ça m'avait un peu manqué, tu vois. Moi, j'étais pas dans le vrai after.
Ouais.
Ça manquait un peu de débat, baston, tu vois.
Oui.
Et je sais pas
là. T'en as eu, là.
J'avais envie de me taper un peu,
ouais,
ça.
Ouais, revenir. Ta radio libre te manque déjà.
Les gars, merci beaucoup à vous deux. On se retrouve très vite. Passez une bonne nuit, l'équipe. L'after revient demain, dès 20h, en direct sur RMC. Ciao tout le monde.
RMC, After Foot.
Intégrale Coupe du Monde.